RRB Midi, info week-end avec vous, Lionel Sabot.
L'ouverture ce matin, Saint-Louis, du 44e congrès du FLNKS. En guise de discours d'ouverture, les participants ont pu entendre la lecture d'un message de Christian Théin, le président du Front indépendantiste. C'est une maladie que beaucoup croient éradiquée et qui pourtant sévit toujours en Nouvelle-Calédonie. En cette journée internationale de la lèpre, l'Ordre de Malte organise une collecte de dons. Israël confirme que 4 nouveaux otages vont être libérés par le Hamas. Il s'agit de 4 femmes, des militaires enlevés aux premières heures de l'attaque du 7 octobre 2023. À la fin d'un procès hors norme devant la cour d'assises de l'Hérault, la mère d'Amandine, morte de faim en 2020, a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité. Le sport et le football, un match nul en ouverture de la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. Auxerre et Saint-Etienne n'ont pu se départager. Score final, 1 but partout. Et puis l'équipe de France de ski alpin décimée par les blessures. Après Cyprien Sarrazin il y a un mois, c'est Alexis Pinturo qui a été gravement blessé. Il a chuté lors du Super G de Kitzbühel en Autriche. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce journal. L'actualité politique fait la une de l'actualité. En ce samedi, le 44e congrès du FLNKS. C'est donc ouvert ce matin, rendez-vous qui se tient à la tribu de Saint-Louis au Mont d'Or, Michael Juneski.
Après les coutumes, les participants ont donc eu droit à la lecture d'une lettre de Christian Théin, le leader de la CCAT, en détention en métropole et qui avait été désigné président du FLNKS lors du congrès de Pagou. Une lecture de Magali Tingal en guise de discours d'ouverture. Donc, dans cette lettre, Christian Théin réaffirme que l'accès à la pleine souveraineté devra se faire dans les plus brefs délais, avec le FLNKS comme seul interlocuteur pour mener les discussions avec l'État, une indépendance qui doit se faire avant l'élection présidentielle de 2027.
Ce congrès est crucial pour l'avenir du peuple kanak et sa souveraineté, car toutes les décisions qui seront prises ce week-end détermineront l'issue de notre lutte pour la décolonisation de Kanaky. L'avenir de notre pays dépend de la capacité de nos responsables à être courageux, pragmatique et déterminé face à un État qui ne fera pas de concessions. Ne soyons pas dupes d'une illusion d'une souveraineté partagée. C'est un concept trompeur. Depuis le 12 décembre 2021, l'État n'est plus neutre ni impartial et cherche, avec le concours de ses clones locaux, à nous maintenir dans le giron de la République française. La priorité numéro un est de conduire notre pays à sa pleine souveraineté. Cela constituera le seul objectif des prochaines discussions avec l'État. L'accord de Kanaky sera le panier dans lequel nos représentants puiseront les éléments pour dialoguer dans un format bilatéral de peuples colonisés face à l'État colonisateur. La France est mise à mal aujourd'hui sur le plan diplomatique. C'est une situation que nous devons utiliser pour l'obliger à respecter ses engagements internationaux. La période de transition doit être la plus courte possible pour éviter que l'élection présidentielle de 2027 ne compromette l'application de l'accord de Kanaky. Notre nation doit obtenir la pleine souveraineté avant cette élection.
Sur le plan politique, Christian Théin appelle à aller vite et à également se projeter sur les provinciales de 2025 où les formations toujours présentes dans le front devront réaliser les meilleurs scores possibles pour obtenir la plus large majorité dans les institutions.
Nous devons impérativement renforcer notre représentativité locale. La mandature provinciale qui touche à sa fin a montré qu'une majorité instable nécessite des compromis et des négociations pour faire adopter nos textes. Or, si la période de transition est brève, il est impératif d'obtenir une majorité au sein des institutions afin de préparer notre pays à exercer sa souveraineté. Cela nécessitera l'adoption rapide de textes sans tergiverser. La médiocrité et l'indiscipline ne seront pas tolérées.
Christian Théin qui évoque également dans sa lettre la reconstruction. Le modèle de société est à repenser, mais il n'est pas question de parler de reconstruction avant l'accès à la pleine souveraineté.
Il est important de reconnaître l'influence que nous avons en tant que citoyens, consommateurs et usagers des services publics. Aussi, nous devons dès aujourd'hui inciter à utiliser nos ressources locales, limiter notre consommation de produits importés, puisque nous décrions sans cesse l'imposition d'un modèle importé et d'un système inadapté. Nous devons décoloniser nos esprits avant qu'il ne soit trop tard. D'abord, allons chercher notre souveraineté et ensuite, bâtissons la société. diversité à laquelle on aspire.
Et le leader de la CCAT de conclure en exprimant le souhait que ce congrès soit, je cite, le dernier où nous préparons la transition de notre pays vers l'indépendance et l'avènement de la naissante Kanaky. Fin de citation. Les travaux de ce 44e congrès du FLNKS se poursuivent donc durant deux jours à Saint-Louis.
Et rappelons qu'aujourd'hui, toujours chez les indépendantistes, le PALIKA est réuni, en retrait du FLNKS, est réuni en assemblée générale à Wailou et que l'UPM organise, quant à elle, un comité central à Dimbéa.
Radio Rythme Bleu, opinion.
L'heure d'opinion, notre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, alors que le PALIKA et l'UPM ne participent pas au congrès du FLNKS ce week-end, comme ils n'ont pas participé au congrès précédent. 90% des auditeurs d'Erreur B qui se sont exprimés par SMS pensent qu'ils doivent quitter le FLNKS. Ils sont 10% à penser que le PALIKA et l'UPM ne doivent pas quitter le FLNKS. Merci de votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Le club politique de Radio Rythme Bleu a fait sa rentrée et ce matin vous avez pu suivre sa rediffusion, c'était il y a quelques minutes. Le club politique, c'est à suivre chaque vendredi à 16h45, rediffusion donc le samedi à partir de 11h, une émission que vous retrouvez bien évidemment également en podcast audio sur notre site internet rrb.nc. On l'appelle maladie du Moyen-Âge et pourtant elle sévit toujours dans le monde et en Nouvelle-Calédonie aussi. Les 25 et 26 janvier sont des journées dédiées aux malades de la lèpre. À cette occasion, l'Ordre de Malte se mobilise pour récolter des dons auprès des Calédoniens. Charlotte Coulson.
Venir en aide aux malades, voilà l'objectif premier de cette association qui soutient particulièrement les malades de la lèpre. Aujourd'hui, les bénévoles sont déployés de Nouméa à Koné pour récolter des dons à la sortie des supermarchés ou des messes. Des fonds qui serviront à soutenir les actions de l'Ordre de Malte sur le territoire, coordonnées notamment par Yann Carpentier, le président de l'association.
Alors, l'objectif, il est double. Le premier, c'est de participer aux actions qu'ils ont un peu partout dans le monde. On a quand même 17 léproseries dans le monde, l'Ordre de Malte France. Et puis nous, ici, d'avoir un petit pécule qui nous permette de participer à toutes les actions qu'on mène pour la lèpre, notamment tout ce qui concerne l'information et la sensibilisation dans les tribus, etc. Il faut faire des tickers, des flyers, etc. Et puis se déplacer. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Donc cette quête, ils participent. Tous les jeunes qui sont avec moi, partout, dans tous les coins où on quête, tous sont largement très sensibilisés puisqu'ils peuvent parler de la lèpre. En plus, on peut remettre à chacun des flyers pour répondre à la lèpre en Nouvelle-Calédonie. On va vers les potentiels donneurs. Puis, s'ils ne souhaitent pas, ils ne souhaitent pas. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde travaille avec des cartes. Et nous on n'a pas notre petit appareil qui va bien. Mais globalement, les gens sont quand même gentils et généreux.
Et l'année dernière, l'association a pu récolter près de 500 000 francs de dons, une belle somme. Pourtant, les bénévoles restent réalistes. Cette année, la quête sera sans doute moins fructueuse, mais c'est le geste qui compte et pas la somme versée. À la sortie de Géant Sainte-Marie à Nouméa, certains Calédoniens et Calédoniennes avaient tout de même quelques pièces ou même billets à consacrer à la lutte pour l'éradication de la lèpre.
Oui, c'est pour l'Ordre de Malte, c'est en fait ceux qui s'occupent des lépreux.
Et il y a des lépreux sur le territoire.
Oui, pour moi c'est important. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir dans ma famille, mais les gens pour qui ça se pose, c'est compliqué. Puis c'est surtout que les gens ne le savent pas ici et ils croient que c'est contagieux, que c'est ceci, que c'est cela. Ils croient que, voilà, que c'est des pestiférés, mais non, c'est juste des lépreux.
Je fais régulièrement des dons. Je sais qu'il y a encore beaucoup de cas en Calédonie. Hein.
Je trouve ça complètement aberrant à notre époque où on met des moyens phénoménaux pour développer des voyages sur la Lune, etc., qu'il y ait encore des gens qui souffrent et qui meurent de la lèpre, quoi, qui était une maladie du Moyen-Âge. Donc, effectivement, je pense que ça vaut le coup d'être soutenu. Chacun à la hauteur de ses moyens, parce qu'on sait que c'est compliqué en ce moment. Mais bon, ça touche à la santé, donc, et tout le monde, normalement, tout le monde a le droit à la santé.
Une quête organisée par l'association de l'Ordre de Malte qui continue aujourd'hui et demain. Rappelons que la lèpre est une maladie peu contagieuse qui se transmet par les voies respiratoires ou au contact de crachats et sécrétions nasales. Une fois diagnostiquée, il est possible de guérir de la lèpre avec un traitement rapide. Et dans le cas contraire, la maladie peut causer des infirmités définitives, des membres et des yeux. Le nombre de cas en Nouvelle-Calédonie reste malheureusement toujours difficile à estimer.
Certains ont décidé de débuter le week-end en s'instruisant. L'association Témoignage d'un passé organise une fois par mois des visites guidées du pénitencier du bagne de l'Île-Nou le samedi matin. L'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire des bagnards en Nouvelle-Calédonie, Charlotte.
Un rendez-vous qui a attiré de nombreux curieux ce matin. Les visites ont repris depuis peu sur ce site qui raconte l'histoire des bagnards arrivés sur le territoire. Le principal pénitencier de l'île a accueilli les déportés de 1864 à 1927 et depuis, les familles des descendants peuplent le territoire. C'est leur histoire qui a été racontée ce matin par Adèle Simon. Elle est directrice du site historique de l'Île-Nou.
Oui, on a eu un groupe de plus de 30 personnes sur ce samedi matin. On est très contents puisque depuis le mois de décembre 2024, malheureusement, le site historique a dû fermer les samedis matins. Et donc, on donne un rendez-vous par mois, un samedi matin par mois, pour une visite guidée. Et puis ensuite, le public a un petit temps de visite à l'intérieur de l'exposition. Donc, on peut dire que c'est une réussite et qu'on est content. On a toujours beaucoup de chance, c'est qu'on a des groupes très dynamiques. Et donc, plus on a de monde, plus on a de questions. Et c'est comme ça qu'on avance tous ensemble autour de cette histoire-là. Donc, c'est vraiment une visite participative.
Et vous l'avez entendu, le public est venu nombreux assister à cette visite guidée. Certains viennent pour éclaircir des détails de leur histoire, en apprendre plus sur le passé de leurs ancêtres, tandis que d'autres viennent de métropole ou d'ailleurs et sont venus découvrir l'histoire de la Nouvelle-Calédonie.
À l'école primaire, et là, on n'apprenait pas l'histoire du bagne. Au collège, j'ai pas appris l'histoire du bagne. Au lycée, on a commencé rapidement à me dire « oui, bon, il y a eu peut-être des bagnards en Nouvelle-Calédonie ».
C'est intéressant parce que en fait, je suis de Nouvelle-Calédonie et je suis jamais venu ici à part pour aller faire une soirée en face. Donc voilà, là c'est l'occasion d'en savoir un peu plus sur en fait un angle mort qu'aujourd'hui on n'en parle pas tant que ça en fait.
Alors nous on est de métropole, ça fait qu'un an et demi qu'on est là, mais on est déjà venu deux fois. Mais mes beaux-parents étaient en vacances et je voulais qu'ils connaissent un petit peu l'histoire du bagne. Comme je suis historienne, transmettre l'histoire c'est important pour moi.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir aujourd'hui?
Ben, l'histoire de la famille déjà, puis l'histoire de la Calédonie. J'ai un arrière-arrière-grand-père et deux arrière-arrière-grand-mères qui viennent du bagne.
Donc une visite intéressante en tout cas.
Oui, très intéressante. Ouais.
Et le site historique de l'Île-Nou est ouvert du mercredi au vendredi de 13h à 16h30 et toujours joignable par téléphone au 30 95 10 ou au 73 77 83.
Dans le reste des sorties pour ce samedi, le parc des Grandes Fougères organise ce soir une visite nocturne du parc. 2 heures de balade guidée pour avoir la chance peut-être d'observer, pourquoi pas, les cagous dans leur milieu naturel. La visite est gratuite, les réservations se font au 20 39 55, le 20 39 55. Quelques mots de l'actualité dans la région Pacifique. En Australie, un nombre sans cesse croissant d'habitants du continent souhaitent maintenir la date de leur fête nationale, l'Australia Day, le 26 janvier. Correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Cette date marque l'arrivée, le 26 janvier 1788, de la première flotte de navires britanniques dans ce qui deviendra ensuite le port de Sydney. Ces dernières années, certains activistes ont toutefois estimé que le 26 janvier était en fait synonyme de l'invasion du pays et qu'il était donc devenu nécessaire de ne plus l'appeler Australia Day. Un récent sondage d'opinion leur a cependant donné tort. 69% de ses participants ont en effet estimé qu'il importait de continuer à célébrer la fête nationale le 26 janvier, alors qu'il n'était que 63% à penser de semblable façon l'an dernier. Ce chiffre est même grimpé à 96% parmi les téléspectateurs de la chaîne Fox. Preuve que l'agitation des activistes ne les a pas découragés, 20 500 migrants venus de 150 pays profiteront de ce 26 janvier pour se faire naturaliser australien. À Sydney, Jean-Pierre Jean-Jacques, RRB.
Il est midi et 15 minutes, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité en métropole et dans le monde.
Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
RRB Midi Écart, la suite du journal avec Lionel Sabot.
Et l'actualité à l'étranger, après Émilie, Deron et Romy, il y a maintenant une semaine, quatre autres otages du groupe terroriste Hamas vont voir leur cauchemar se terminer dans les heures qui viennent. Israël a confirmé ce matin l'identité des quatre femmes, quatre militaires de Tsahal, qui avaient été enlevées aux premières heures du 7 octobre 2023. Quatre femmes qui vont retrouver la liberté après près de 500 jours aux mains du Hamas. Frédéric Simon pour Europe 1.
Israël a confirmé ce vendredi soir que quatre otages seront libérés samedi. Il s'agit de Liri Albag, 19 ans, Karina Araïef, Daniela Gilboa et Naama Levy, 20 ans chacune. Quatre soldates du corps des renseignements. Le 7 octobre 2023, elles avaient été capturées dans une base militaire située à proximité de la bande de Gaza. Un nom ne figure pas dans cette liste, celui d'Arbel Yehoud. Cette habitante d'un kibboutz limitrophe du territoire gazaoui est considérée comme la seule civile vivante encore en captivité. Or, le Hamas s'était engagé à libérer prioritairement les femmes civiles. Arbel Yehoud serait détenu par un autre groupe terroriste, le djihad islamique, mais pour Israël, son maintien en détention constitue une violation flagrante des termes de l'accord par le Hamas. Les libérations des quatre soldats ne sont toutefois pas remises en cause. Elles devraient s'effectuer ce samedi dans la matinée ou à la mi-journée. Ce n'est que lorsque les quatre jeunes femmes seront saines et sauves en Israël que l'État hébreu mettra en œuvre ses propres engagements. Autorisation donnée au retour dans le nord de la bande de Gaza de plusieurs centaines de milliers de civils gazaouis et libération de dizaines de détenus palestiniens, certains condamnés à perpétuité pour meurtre et activités terroristes. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.
Et après la libération de ces quatre jeunes femmes, il restera 26 otages israéliens libérables à Gaza dans le cadre du cessez-le-feu signé il y a quelques semaines entre l'État hébreu et le groupe terroriste islamiste Hamas. L'actualité à l'étranger, c'est également Donald Trump qui, moins d'une semaine après son arrivée à la Maison-Blanche, s'active sur la scène diplomatique. Le président américain souhaite organiser des négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. Donald Trump, qui semble être entendu par son homologue russe, Vladimir Poutine, qui ne tarit pas d'éloges à l'égard du nouveau locataire de la Maison-Blanche, Maxime Gondelot pour Europe 1.
C'est par médias interposés que Vladimir Poutine et Donald Trump discutent pour l'instant. Dans une interview accordée à Russia One, le président russe affirme que le conflit aurait pu être évité si Donald Trump avait remporté l'élection présidentielle en 2020. Il loue le caractère pragmatique et intelligent de son homologue américain. Il se dit également ouvert au dialogue.
Nous avons toujours dit, et je tiens à le souligner une fois de plus, que nous sommes prêts à mener des négociations sur le problème ukrainien.
Des négociations qui ne pourront se faire sans l'Ukraine ou l'Europe, avertit Kiev. Une question demeure. Combien de temps vont prendre ces négociations de paix? Pour Michel Etchaninov, spécialiste de la Russie, c'est le président russe qui est en position de force.
Trump va aller vite, donc il sera prêt, je pense, à lâcher des choses favorables à l'Ukraine. Ce que Vladimir Poutine va faire, c'est impatienter Donald Trump pour obtenir le plus de choses possibles. Moi, je pense que ça va durer plusieurs mois.
Signe supplémentaire d'un réchauffement des relations entre les deux nations, le porte-parole du Kremlin assure que la Russie est prête à rouvrir le dossier du désarmement nucléaire.
Maxime Gondelot du service international d'Europe 1. Donald Trump très actif sur la scène internationale, très actif également sur la scène nationale. Des centaines de clandestins présents aux États-Unis sont en cours d'expulsion. Pour la première fois, l'administration Trump a eu recours à des avions de l'US Air Force pour procéder à ces expulsions qui avaient été annoncées par Donald Trump. Selon la Maison-Blanche, 538 migrants criminels illégaux ont été reconduits à la frontière ces dernières heures. À l'étranger, toujours, la tempête Evelyn a fait un mort en Irlande, un homme qui a été tué par la chute d'un arbre. L'Écosse a également été balayée par cette tempête. Les vents ont dépassé par endroits les 180 km/h. Ce matin, près d'un million de foyers en Irlande et en Écosse étaient toujours privés d'électricité. L'actualité en métropole à présent, et c'est la peine maximale qui a été prononcée cette nuit pour nous à l'encontre de Sandrine Pissara, la maman d'Amandine. Cette fillette de 13 ans, morte de faim en 2020. Sandrine Pissara a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. La cour d'assises de l'Hérault a découvert pendant une semaine les détails sordides, inhumains, du calvaire de cette adolescente. Antoine Gaveau pour Europe 1.
Décédée à seulement 13 ans et demi, la jeune Amandine aura vécu un calvaire pendant toutes ses jeunes années. Dès la petite enfance, Amandine subit les coups de sa mère qui la frappe fort, laissant sur son corps des marques d'une horreur inimaginable. La jeune fille est violemment punie à coups de poing, de tirage de cheveux ou encore de douche glacée. Une barbarie orchestrée par Sandrine Pissara, sa mère qui, pendant de longues années, l'enferme dans un débarras de la maison familiale, sans eau ni nourriture, jusqu'à l'affamer. Malgré plusieurs rapports de ses établissements scolaires, Amandine n'a jamais fait l'objet d'aide de la part des services sociaux. Le père d'Amandine, séparé de Sandrine Pissara, n'était lui-même pas au courant de l'horreur que vivait sa fille. À l'annonce du verdict cet après-midi, son avocat a lancé un appel pour qu'une telle barbarie ne se reproduise jamais.
C'est la justice des hommes qui a rendu un verdict. Ce verdict est à la hauteur de la gravité des faits. Au-delà de la responsabilité qui a été décidée, la responsabilité individuelle, il faudra maintenant que la société se pose la question sur le fonctionnement de l'institution et la protection de l'enfant. Ça n'enlève rien à la responsabilité des auteurs, mais il y a beaucoup de choses qui ont dysfonctionné.
Condamnée aujourd'hui à la réclusion criminelle à perpétuité, la mère d'Amandine a reconnu tous ses actes de torture sans pour autant fournir d'explication à ses gestes barbares.
Antoine Gaveau du service police-justice d'Europe 1. Dans l'actualité également en métropole, un suspect placé en détention provisoire et 6 autres personnes présentées à un juge en vue d'une mise en examen dans le cadre de l'enquête sur l'affaire David Balland, le cofondateur d'une entreprise spécialisée dans les crypto-actifs. L'homme a été enlevé, mutilé et séquestré ces derniers jours par les malfaiteurs qui exigeaient une rançon en crypto-monnaie. Déjà, au début du mois, un influenceur exerçant également dans le monde des crypto-monnaies avait été retrouvé dans le coffre d'une voiture près du Mans, dans la Sarthe. Il est 12h22, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les 2 minutes? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicap et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte dépiste, soigne et fait avancer la recherche.
À l'occasion de la Journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte organise une quête ce samedi 25 et dimanche 26 janvier. Soyez généreux.
Jusqu'au vendredi 7 février, gagnez un séjour à l'hôtel de Poé ainsi qu'un vol au-dessus du plus beau lagon du monde avec Cap ULM. Vous séjournerez 6 nuits en bungalow tout confort, cuisine équipée, terrasse et jardin privatif offerts par l'hôtel de Poé ainsi que 2 vols offerts par Cap ULM. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Toute l'année, l'hôtel de Poé vous accueille dans une ambiance conviviale et familiale et Cap ULM vous fait survoler le lagon de Poé et le cœur de Vaud. Toutes les actus sur la page Facebook de l'hôtel. Profitez d'un séjour reposant et sportif à l'hôtel de Poé. Un cadeau d'une valeur de 122 000 francs. Tirage au sort vendredi 7 février à 14h. 371 francs par SMS. Sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du journal avec le sport et on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport avec du football est le début de la 19e journée du championnat de France de Ligue 1. Ce matin, Auxerre recevait Saint-Etienne au stade Abbé Deschamps pour un duel de promus. Au terme d'un match qui ne restera certainement pas dans les annales du football français, les deux équipes se sont séparées par un match nul, un but partout. Au classement, Auxerre reste 11e du général avec 23 points. La Saint-Etienne prend provisoirement la 14e place avec 18 points et sort tout aussi provisoirement de la zone rouge du classement. Suite de cette 19e journée, demain et lundi matin pour nous. Demain, Monaco recevra Rennes, Strasbourg sera opposé à Lille et le Paris Saint-Germain, le leader du championnat, recevra Reims. Lundi matin, à suivre Le Havre-Brest, Nantes-Lyon, Lens-Angers, Toulouse-Montpellier et Nice-Marseille. Du rugby et après la Coupe d'Europe ces derniers week-ends, retour au championnat avec la 15e journée du top 14. À partir de minuit ce soir, à ne pas manquer, l'affiche entre Toulouse et Montpellier. Un peu plus tard dans la nuit, le Racing 92 sera opposé à Castres. Vannes fera face au Stade français. Pau accueillera Clermont et Perpignan recevra Bayonne. Demain matin, 7h15, l'actuel leader, l'Union Bordeaux-Bègles, recevra Lyon. Et puis lundi matin, la dernière rencontre de cette 15e journée du top 14 verra une confrontation entre Toulon et La Rochelle. Du tennis et les finales de l'Open d'Australie, première manche du Grand Chelem. Ce soir à 19h30, chez les dames, la Bélarusse, double tenante du titre et numéro 1 mondial, Arina Sabalenka sera opposée à Madison Keys, l'américaine tête de série numéro 19 qui a battu la numéro 2 mondiale, Iga Swiatek, en demi-finale. Chez les messieurs, la finale, vous savez, opposera demain l'italien Yannick Sinner à l'allemand Alexander Zverev. Zverev s'est qualifié hier après l'abandon de Novak Djokovic sur blessure. Dans l'autre demi-finale disputée hier également, le numéro 1 mondial Yannick Sinner s'est imposé en 3-7 sur l'américain Ben Shelton, score final 7-6, 6-2 et 6-2. Du sport mécanique également avec le coup d'envoi de la saison de rallye. Pilotes et écuries sont engagés depuis deux jours sur le rallye de Monte-Carlo. À l'issue des deux premières journées de course, c'est le septuple champion du monde, le français Sébastien Ogier, qui est en tête du classement général. À l'issue des 9 premières spéciales, le pilote Toyota devance son coéquipier, le gallois Elfyn Evans, et un autre français, Adrien Fourmeau. Le champion du monde en titre, le belge Thierry Neuville sur Hyundai, est parti à la faute dans la 6e spéciale. Une sortie de route qui lui a fait perdre plus de 2 minutes sur le leader. Et puis quelques mots de sport d'hiver, avec encore un skieur français très sévèrement blessé. Après Cyprien Sarrazin, c'était il y a un mois, c'est cette fois-ci Alexis Peintureau qui s'est blessé. Il a chuté lors du Super G disputé sur la mythique piste de la Streif à Kitzbühel en Autriche. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Alexis Peintureau a chuté au bout de 20 secondes dans une courbe. Le skieur de 33 ans s'est relevé en boitant avant d'être électroyé à l'hôpital. Le champion du monde de combiné souffre d'une fracture associée à une lésion du ménisque droit, un an seulement après une grosse blessure au genou gauche. La légende du ski alpin, Luc Alphand, connaît parfaitement cette piste et reconnaît qu'elle est particulièrement dangereuse.
La Streif, cette piste à Kitzbühel, elle a toujours été difficile. Il y a toujours eu beaucoup de chutes. Mais bon, est-ce qu'on peut blâmer la piste? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de psychologie là-dedans, dans les accidents. C'est vrai que la rupture des croisés de l'année dernière, elle a beaucoup touché Alexis. Maintenant, c'est savoir ce que lui veut faire.
Alexis Peintureau doit faire une croix sur les mondiaux de ski à Saalbach, prévu dans une semaine en Autriche, et pourrait s'interroger sur la suite à donner à sa carrière. Une course autrichienne qui a fait beaucoup de dégâts. Le fils de Luc Alphand, Nils, s'est également tombé, ainsi que deux autres Français. Une véritable série noire pour le ski français. Cyprien Sarrazin a été victime d'une commotion cérébrale il y a un mois. De nombreuses chutes qui relancent le débat sur la sécurité des skieurs.
Cyril de la Morinerie du service des sports d'Europe 1. Il est midi et 28 minutes. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'info, ce sera à 13h. Passez un bon début d'après-midi sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Un excellent week-end.
Tous les midis, Radio Rythme Bleu vous offre le Café Gourmand.